Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « Comment reçoit-on le Saint-Esprit ?» De nos jours, on s'intéresse énormément à tout ce qui se rapporte au Saint-Esprit. On parle beaucoup de lui. Mais ceux qui en parlent se contredisent les uns les autres. Et ce qui est pire, ils contredisent souvent les enseignements clairs qui se trouvent dans la Bible concernant l'Esprit-Saint. Un point sur lequel on rencontre assez de confusion est la question à savoir comment une personne reçoit l'Esprit. On recommande souvent à ceux qui sont déjà chrétiens de le rechercher, de prier ardemment, de veiller et de jeûner pour que Dieu leur donne l'Esprit. D'autres parlent de se purifier de tout péché. Certains prétendent être capables de donner le Saint-Esprit aux autres par l'imposition de leurs mains. Mais qu'est-ce que la Bible en dit? Comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Et que signifie le fait que l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un? En Romains 8, verset 9, l'apôtre Paul dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Supposez que l'Esprit de Dieu ne demeure pas en vous. Êtes-vous un chrétien inférieur? Paul dit que vous n'appartenez pas à Christ. Supposez que l'Esprit en fait demeure en vous. Est-ce que cela veut dire que vous êtes un chrétien supérieur, au-dessus de ceux qui sont chrétiens de nom seulement? Pas du tout. Cela veut dire tout simplement que vous êtes chrétien. Si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en vous, cela ne veut pas dire que vous êtes un chrétien inférieur. Cela veut dire simplement que vous n'êtes pas chrétien. Être chrétien, c'est avoir l'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit. Quel est le moyen de recevoir l'Esprit? Si nous avons répondu correctement à la question de la signification de la présence de l'Esprit, il s'ensuit que les conditions pour recevoir l'Esprit sont les mêmes que les conditions pour devenir chrétien. Demander « Comment puis-je recevoir le Saint-Esprit ?» c'est la même chose que de demander « À quelles conditions est-ce que je peux être en communion avec Dieu ?» Paul lui-même a soulevé aux Galates la question même qui est devant nous. Paul voulait qu'ils considèrent la manière dont ils avaient reçu l'Esprit. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. » Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Galates 3, verset 2. Voici les seules deux possibilités. Nous recevons l'Esprit soit par les œuvres de la loi, soit par la prédication de la foi. Certains nous disent que la venue de l'Esprit diffère d'une personne à une autre, qu'on ne peut pas déterminer avec certitude le moment et les conditions de sa venue. Il peut venir à tel point dans le développement de cette personne, mais à un tout autre point dans la vie d'une deuxième personne. Paul n'a pas une telle idée. Il veut savoir des Galates quand ils ont reçu l'Esprit, et sous quelles conditions. Avez-vous reçu l'Esprit par vos propres actions méritoires? Ou bien, avez-vous reçu l'Esprit par un autre moyen? Avez-vous reçu l'Esprit par l'écoute de la foi? L'écoute de la foi veut dire que l'on a entendu l'Évangile, et que l'on y a cru. Et quand on a entendu l'Évangile et que l'on y a cru, on a reçu l'Esprit. Voilà le moyen de recevoir l'Esprit. Paul continue en demandant aux Galates, « Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Galates 3, verset 3. Quand l'Esprit vient-il? Il vient au commencement de la vie chrétienne. Il ne vient pas quand on s'est montré digne, que l'on a prié avec suffisamment d'ardeur, que l'on s'est purifié le cœur pour prouver que l'on est prêt à recevoir l'Esprit. On commence avec l'Esprit. Ce n'est pas que l'on devient chrétien et qu'ensuite on se dit « Maintenant je vais rechercher une deuxième bénédiction. Je vais rechercher l'Esprit. Je vais tâcher de l'obtenir dans sa plénitude. » Non, l'Esprit vient au commencement. Et si l'Esprit nous aide réellement, nous avons besoin de lui dès le commencement. Si nous le recevons après nous être purifiés le cœur de tout péché par nos propres efforts et sans aide, nous prouvons que nous pouvons très bien nous passer de lui. Paul dit que le moyen de recevoir l'Esprit est très très simple. Tu entends l'Évangile, tu acceptes l'Évangile, et Dieu t'accorde l'Esprit. En d'autres termes, tu deviens chrétien, et tu reçois l'Esprit comme un don de Dieu. Écoutez ce que dit l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Au temps de Jésus, l'une des cérémonies impressionnantes de la fête des tabernacles consistait en une libation d'eau. Un prêtre apportait dans une cruche de l'eau de la piscine de Siloam et la versait auprès de l'autel. Pendant la cérémonie, on chantait Ésaïe chapitre 12, verset 3 « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de salut ». Cette action symbolique représentait la reconnaissance envers Dieu qui avait pourvu de l'eau pour Israël dans le désert. Devant cette mise en scène, Jésus parla d'une eau donnée pour la soif spirituelle, le fort désir d'être en règle avec Dieu, et d'un don de fleuve, non pas quelques gouttes seulement, mais des fleuves d'eau vive. Jean explique que les fleuves se réfèrent au Saint-Esprit. Et quelle est la condition pour la réception de l'Esprit ? C'est la foi. La foi en l'Esprit lui-même ? Non. Le passage nous dit à deux reprises que la condition pour la réception de l'Esprit est la foi en Jésus-Christ. Et cela s'accorde avec ce que Paul dit en Galates 3, versets 1 à 5. On reçoit l'Esprit par l'écoute de la foi, et on le reçoit au commencement. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre dit à la foule qui avait cru en Jésus, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous voyons ici que l'on reçoit l'Esprit Saint à un moment bien déterminé. On le reçoit quand on devient chrétien, au début de sa vie chrétienne, précisément au point du baptême. On reçoit l'Esprit dans l'eau de la nouvelle naissance dont Jésus a parlé à Nicodème en Jean 3. Dire que l'on reçoit l'Esprit au moment du baptême, n'est-ce pas contraire à ce que Jésus dit en Jean 7, versets 37 à 39 ? Que la condition pour la réception de l'Esprit est la foi en lui. Il n'y a pas de conflit tant que l'on reconnaît l'union de la foi et du baptême. Bibliquement, la foi et le baptême vont ensemble. Paul dit en Galates 3, versets 26 et 27, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Jésus dit en Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Acte 8, verset 12, dit au sujet des Samaritains, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » En acte 18, verset 8, nous lisons, « Plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. » Beaucoup de passages bibliques montrent que l'on ne peut pas séparer la vraie foi en Christ et le baptême. Les deux choses vont toujours ensemble. Le baptême est une confession de foi en Christ. Il ne signifie pas quelque chose de contraire à la foi. La venue de l'Esprit est par la foi, et sa venue est précisément au moment du baptême. 1 Corinthiens 12, verset 13 également, associe le don de l'Esprit au moment du baptême. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'Église est un corps composé de plusieurs membres. Nous tous, bien que nombreux, sommes membres d'un seul corps. Quand sommes-nous devenus membres de ce seul corps? C'était quand nous avons été baptisés pour former le seul corps. C'est aussi en ce moment que nous avons alors été abreuvés du seul esprit. Notez bien que Paul répète « un seul » trois fois, et « tous » deux fois. dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors je vous demande de considérer cette question très sérieusement. À la lumière de cette déclaration de Paul, serait-il possible de croire que seulement certains chrétiens ont pu boire du seul esprit? Est-ce que Paul est en train de partager l'Église en deux parties, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels? Les chrétiens charnels n'auraient pas l'esprit, ou bien ils n'auraient pas l'esprit en grande quantité, ils n'auraient que quelques gouttes. Mais il existerait des chrétiens supérieurs qui ont l'esprit, ou qui ont l'esprit en plus grande abondance. Pouvons-nous comprendre Paul de cette manière? Pas du tout. Ce qu'il est en train de dire, c'est que l'Église est un seul corps, bien que composé de plusieurs membres. Pour appuyer cela, il insiste sur le fait qu'il y a une seule expérience pour tous les chrétiens. Nous avons tous, sans aucune exception, été baptisés pour former un seul corps, et nous avons tous, sans aucune exception, été abreuvés d'un seul esprit. Combien de chrétiens ont reçu l'esprit? Tous, sans exception, qui ont été baptisés pour former le seul corps, ont été abreuvés de l'esprit. Nous recevons ainsi le seul esprit au commencement, quand nous devenons chrétiens. Comment devient-on chrétien? On écoute la bonne nouvelle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. On croit en Christ. On se repent de ses péchés. On confesse sa foi en Christ. Et on est immergé dans l'eau pour le pardon des péchés. Dieu, dans sa grâce infinie, nous donne alors le pardon et le don du Saint-Esprit. Dans notre prochaine émission, nous parlerons de ce que l'Esprit fait en nous.